VOA Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En Angola, inculpation pour fraude de José Filomeno dos Santos, fils de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos. Il est accusé de malversation d'un montant de plus de 500 millions de dollars à l'époque où il dirigeait le Fonds national souverain du pays. C'est ce qu'annonce ce lundi la radio nationale angolaise. Afrique du Sud, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma pourrait comparaître devant la justice dès le mois d'avril pour répondre d'accusations de corruption, fraude et blanchiment d'argent dans une vieille affaire de vente d'armes. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
La presse sud-africaine affirme que la première audience de ce procès devrait avoir lieu le 6 avril à Durban. Une date toutefois non confirmée par le porte-parole de l'unité en charge du dossier, soulignant que les convocations n'ont pas encore été finalisées. Jacob Zuma a été renvoyé le 16 mars devant un tribunal, accusé d'avoir touché des pots de vin du groupe Thales en marge d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros conclu en 1999. Il y a 10 jours, le procureur général Sean Abrams a annoncé que l'ancien président serait bel et bien poursuivi dans cette affaire, ainsi que le groupe français qui a remporté une partie de ce contrat pour l'équipement de navires militaires. Mis en cause dans une longue liste de scandales, Jacob Zuma a démissionné le mois dernier sous la pression de son parti, le Congrès national africain.
Politique en RDC, l'ONU doit décider ce mardi du renouvellement de sa force en République démocratique du Congo, avec en ligne de mire les élections prévues le 23 décembre pour garantir le départ du pouvoir du président Joseph Kabila. La nouvelle résolution, qui sera soumise à un vote au Conseil de sécurité, insiste sur la nécessité de tout faire pour que les scrutins du 23 décembre 2018 se passent dans les conditions requises d'inclusivité, de transparence, de crédibilité et de sécurité. Objectif, assurer un transfert de pouvoir à la tête de l'État qui devrait avoir lieu, selon l'ONU, autour du 12 janvier 2019, soit plus de 2 ans après la fin du mandat du président Kabila en décembre 2016. Pour sa part, le gouvernement congolais a annoncé avoir décidé de financer sur fonds propres les prochaines élections pour protéger la souveraineté nationale. Plus de détails avec Nathalie Barge.
La RDC dispose des moyens pour financer seule les élections du 23 décembre, puisque nous enregistrons une embellie dans les finances de l'État, a déclaré Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Deux propositions ont été repoussées car il est exclu que les prochaines élections soient financées par l'extérieur, a-t-il précisé, ajoutant que le pays ne veut plus revivre les expériences du passé où ceux qui apportent des financements ont tendance à vouloir orienter l'issue des élections, a-t-il dit. Il a été décidé en réunion interinstitutionnelle de manière souveraine que la RDC va financer sur fonds propres les élections du 23 décembre 2018, a déclaré à la télévision d'État le ministre congolais de l'Intérieur Henri Mova.
A noter que ce lundi, le ministère de l'Intérieur est censé transmettre à la commission électorale la liste des partis et regroupements autorisés à participer aux élections de fin d'année. Mais le principal opposant et candidat déclaré, Moïse Katumbi, en exil à Bruxelles, ne peut pas rentrer dans le pays sans risquer d'aller en prison en raison de sa condamnation dans une affaire immobilière dont il conteste les fondements. Autre difficulté concernant l'organisation des présidentielles, la RDC compte des millions de déplacés, plus de 4 d'après la branche humanitaire de l'ONU, et aussi des poches de conflits, de violences et d'insécurité au Kasaï dans le centre du pays, ainsi que dans les provinces de Tanganyika, des deux Kivu et en Ituri dans l'Est. Au Tchad, le Forum national sur les réformes institutionnelles tire à sa fin après une semaine de travaux. Sa clôture est prévue pour demain mardi. La réunion a été boycottée par l'opposition et une partie de la société civile qui avait été invitée à participer à sa préparation. Selon les observateurs, le forum devrait aboutir à un allongement de la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans, renouvelable une fois, à la création d'un Sénat et à la refonte des régions. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a déjà même annoncé la mise en place d'une 4e République.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Niger, affrontement dimanche après-midi à Niamey entre les forces de l'ordre et des manifestants qui voulaient braver l'interdiction par les autorités d'une manifestation contre la loi de finances 2018. Trois des principales figures de la société civile ont notamment été arrêtées. De la capitale nigérienne, le compte-rendu de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Les trois principaux dirigeants du mouvement de contestation de la loi des finances, Moussa Tiangari, Nuhu Arzika et Ali Idrissa, ont été les principales cibles des agents de la police nationale. Le premier sera arrêté tôt le dimanche matin au siège de son association Alternative Espace Citoyen, quelques minutes avant l'heure indiquée pour le début de la manifestation. Ali Idrissa se présente au siège du MPCR pour attendre Nuhu Arzika pour aller ensemble au lieu du rassemblement. Il est pris sur place avec d'autres camarades. Direction la compagnie nationale de sécurité.
On est enlevés par le gouvernement de Youssoufou. Nous sommes les otages de Youssoufou. La marche aura lieu. Et le peuple vaincra. Nous vaincrons. La marche aura lieu. Nous appelons le peuple à manifester.
Nuhu Arzika, lui, sera interpellé en début de soirée. Entre-temps, dans les quartiers environnant la place Toumo, lieu du rassemblement, quelques manifestants dressent des barricades et brûlent des pneus sur les trottoirs. La police intervient pour les disperser. Un des responsables de la société civile intervient en direct en début de soirée sur la chaîne privée de télévision Labari appartenant à l'Idrissa pour demander aux populations de sortir. Il est aussitôt arrêté par la police qui ordonne également la fermeture de la télévision. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Au Bénin, les syndicats refusent de retirer leur mot d'ordre de grève après des semaines de débrayage. Les dernières négociations avec le gouvernement n'ont pas abouti à une sortie de crise. Et la principale pomme de discorde reste la retenue opérée par le gouvernement sur les salaires de février pour fin de grève. De Cotonou, les explications de notre correspondante Ginette Fleur à Dandé.
La situation sociale au Bénin se dégrade chaque jour un peu plus. Au cœur du desserrement de la crise, les retenues sur salaire pour faire de grève au Noël Chadaré de la Cosi Bénin, les négociations reprendront quand le gouvernement aura retrouvé la raison.
Nous n'allons pas venir nous asseoir avec des gens qui posent des actes de guerre alors qu'ils donnent l'impression au monde entier, aux Béninois, qu'ils veulent la paix. Nous ne sommes pas des pantins désarticulés que les policiers vont manipuler.
Mauvaise nouvelle, le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille. Le ministre Joseph Diogo. Ce n'est qu'une question de bon sens et de justice.
Service public, nous allons réaliser que ça dépasse à peine 150 jours. Et c'est sur ces 150 jours que nous faisons une grève illimitée et dont nous sollicitons la contrepartie qui est le salaire. Je voudrais que chacun prenne conscience de cela.
L'absence de dialogue actuellement pour conduire au dégel de la crise sociale semble n'inquiéter personne. Même la société civile pour le moment observe la loi du silence. Pourtant, il faudra des hommes et des femmes de bonne foi pour conduire les deux parties à fumer le calumet de la paix ou le bonheur de l'administration béninoise. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
En Égypte, les bureaux de vote sont ouverts depuis 7h du matin pour un scrutin présidentiel qui devrait reconduire le président sortant Abdel Fattah al-Sissi pour un nouveau mandat de 4 ans. Les quelques 60 millions d'électeurs du pays le plus peuplé du monde arabe ont jusqu'à mercredi pour se prononcer entre M. Sissi et son unique adversaire, Moussa Mostafa Moussa, un politicien peu connu qui ne cache pas son soutien au chef de l'État. Les résultats officiels seront proclamés le 2 avril. Proche-Orient maintenant, conflit en Syrie, la ville de Tal Rifat à une quarantaine de kilomètres au nord d'Alep est la prochaine cible de l'opération militaire turque contre une milice kurde dans le nord du pays, après la prise de la localité d'Afrin. C'est ce qu'a annoncé dimanche le président turc Recep Tayyip Erdogan. Rappelons que le 18 mars, les forces turques, avec l'aide de supplétifs syriens alliés, ont pris l'enclave d'Afrin, y délogeant la milice kurde des unités de protection du peuple. Cette milice est classée terroriste par Ankara, mais constitue un allié précieux de la coalition internationale dirigée par les États-Unis dans la lutte contre le groupe État islamique. Ankara n'a jamais caché son hostilité face à l'autonomie de facto acquise par les Kurdes de Syrie dans de vastes territoires proches de la frontière turque à la faveur du conflit qui ravage la Syrie depuis 2011. Et pour terminer, toujours au Proche-Orient, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est à nouveau interrogé par les policiers dans l'affaire dite de Bezek, l'une des enquêtes pour corruption présumée menaçant son long règne à la tête du pays.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.